Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1-2-1-2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je pense que comme tout le monde, vous avez dû sauter ce matin quand vous avez lu Journal de Montréal, Journal de Québec et que vous avez vu le travail de nos collègues. Ben là, nommément Jean-Louis Fortin, donc du bureau d'enquête Journal de Montréal, Journal de Québec, qui nous révèle que Dominique Olivier, hein, dans l'époque où elle était à l'Office de consultation publique de Montréal, a fait des dépenses dans des restaurants haut de gamme, bon, déjà, mais qu'en plus, dans certains cas, des factures auxquelles Jean-Louis Fortin a eu accès grâce à la loi d'accès à l'information, dans certains cas, c'est le menu, c'est l'item le plus cher sur le menu. Là, je me suis dit, oh, quand même, on exagère. Fait que je suis allée vérifier, par exemple, une des dépenses que Mme Olivier a fait au restaurant Damas. Pourquoi ce restaurant-là? Parce que c'est évidemment un des deux restaurants qu'elle a fréquenté pendant sa période de dépense, mais aussi parce que c'est un restaurant que j'aime beaucoup, qui n'est pas tellement loin de là où j'habite. Et c'est un restaurant où j'allais très souvent avant, puis j'ai arrêté d'y aller. Savez-vous pourquoi? Parce que je trouvais que c'était trop cher. Mais ça a l'air que pour Mme Olivier, il n'y a rien qui est trop cher. Fait que je suis allée voir le menu. Elle aurait pu prendre un kebab d'Alep à 54 $. Tu sais, quand t'as un plat principal au restaurant qui est à 54 $, tu te dis, hey, quand même cher un peu. Elle aurait pu prendre un carré d'agneau à 78 $. Mais 78 $ pour un plat principal pour une personne, là, c'est cher un peu. Elle aurait pu prendre le filet mignon qui est à 82 $. 82 $ pour un plat. Il y a aussi le samak méchoui. Méchoui. 110 $. Un loup de mer méditerranéen avec une sauce au tahini vert, une salade de cresson, des piments d'Alep, des zestes de citron. Je lis le menu, puis déjà, j'ai juste le goût de m'en aller puis d'aller manger au restaurant Damas. Mais c'est pas le samak méchoui qui est le plat le plus cher au menu. Le plat le plus cher au menu, c'est 170 $ pour des grillades mixtes, un plateau de viande pour deux personnes, un carré d'agneau de l'Alberta, un filet mignon, du shish taouk, un kebab d'Alep, un kébé d'agneau grillé, du pain biwaz épicé, une mayo à l'ail et au tahini. Fait que même si tu dis c'est pour deux personnes, ça revient quand même à 85 $ par personne. Vous et moi, là, on y va au restaurant des fois. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé au restaurant et que le plat principal, là, le plat principal, pas l'entrée, pas le... Le plat principal coûte 85 $. Honnêtement, moi, je suis pas capable de me rappeler si la dernière fois, et même si c'est déjà arrivé. Un plat principal à 85 $. Ça nous dit quelque chose quand même de l'état d'esprit de quelqu'un qui dépense de l'argent public et qui, au restaurant, regarde le menu puis continue, il défile le menu parce qu'il est en ordre croissant de prix, le menu. Puis là, tu regardes le menu, puis tu t'arrêtes à la fin du menu, le plat le plus cher. Juste ça, ça nous dit quelque chose sur la façon dont certains fonctionnaires voient l'argent public. Plat de bonbons, on met la main dedans, puis on sert allègrement, mais-en, c'est pas de longueur.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Moi, je suis toujours intéressée par des discussions sur la culture, puis comment on fait pour intéresser les jeunes à la culture québécoise. Puis il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les médias sociaux en ce moment. Et c'est ce dont va nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi.
Bonjour Sophie.
De quoi s'agit-il dans cette vidéo?
Alors c'est une vidéo qui a été publiée par Farnell Morisset, qui est un gars qui fait des vidéos d'opinion comme ça, souvent en lien avec la jeunesse pour défaire des préjugés. C'est quelqu'un qui est très bien intentionné, il s'exprime bien, c'est pas quelqu'un qui polarise. Au contraire, il veut vulgariser des enjeux.
D'accord.
Bon, moi, je trouve pour ça. Seulement là, cette fois-ci, il procède d'une façon un peu curieuse. Il prend un extrait d'une émission animée par Marc Labrèche à Novo.
Oui, je viens à toi.
Oui, alors il y a quelques jours, il a reçu Christian Bégin et Jean-Sébastien Girard. Ils se sont mis à discuter entre hommes de 50 ans. Je pense que Jean-Sébastien Girard a 48 ans, là, mais bon, ils sont 50 ans et plus.
Pas un Jean-Philippe Dion de toi-même.
Non,
là,
non,
parce
non,
que
mais...
J'ai prétendu qu'il était né en 65, donc...
Non, mais je me suis surpris tout de suite. Mais ouais. Donc, des hommes d'un certain âge, mettons, on va dire, qui discutent de culture et qui s'inquiètent de la réception de leur art auprès des jeunes et qui disent « les jeunes ne nous connaissent pas ». Et là, l'extrait est interrompu par Farnel Morisset, qui conclut que finalement, on s'inquiète pour rien finalement, parce que ces gens-là s'inquiètent, disent-ils, prétendent-ils, de la réception de la culture au Québec, mais c'est en fait un regard très narcissique qui pose sur leur propre œuvre, qui n'est pas reconnue par les jeunes. Donc, c'est comme un faux indicateur de la connaissance de la culture.
Parce que les jeunes ne connaissent pas Marc Labrèche ou Jean-Sébastien Girard, que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise. Qu'est-ce que tu dirais si on écoutait un petit extrait de la fameuse vidéo de Farnel Morisset qui circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux?
Qu'est-ce que ça vous dit sur l'avenir de la culture au Québec? Puis qu'est-ce que ça vous appelle dans la réflexion que vous avez eue cette semaine?
J'ai l'impression qu'on est en train de perdre des générations complètes. Il y a toute une génération qui ne nous écoute pas présentement.
Absolument.
Qui ne sait pas on est qui.
T'as raison.
Ça ne les intéresse pas de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on fait.
Pour l'instant.
Donc,
est-ce que vous vous mettiez à faire des TikTok peut-être?
Oui, peut-être.
Ce clip est profondément décevant. D'abord parce que c'est complètement faux que les jeunes ne sont pas intéressés par la culture québécoise et c'est facile de le démontrer. Amy Lalune a 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Claudie Mercier en
donc,
a 1,3.
Là, ce qui suit, c'est une explication. Farnel Morisset dit c'est faux et c'est facile d'en faire la démonstration. Et là, les deux exemples qu'il donne, ce sont des TikTokers qui ont énormément d'abonnés. Bon, plusieurs choses. Premièrement, si c'est aussi facile de faire la démonstration que les jeunes sont intéressés par la culture québécoise, moi, je vais essayer une démonstration contraire, d'accord?
Ah.
Oui, malheureusement, je ne veux pas être prophète de malheur, mais il y a quand même des données qui sont à notre disposition.
Voilà, alors vas-y, ça devient très intéressant.
Culture, en plus, en général, on pense pas à TikTok, là, je m'excuse, mais quand on pense à culture, on pense à la télé, par exemple. Écoute, Vrac TV a disparu. Adic, Historia, Canal D, Radio-Canada et TVA ont perdu des codes d'écoute chez les plus jeunes. Près de la moitié... Te rappelles-tu, il y a 2 ans, il y a eu une étude qui a été menée à ATM, à Jonquière.
Oui.
Bon, alors ils avaient interrogé 643 élèves.
Ils leur demandaient, ils ne connaissaient pas Véronique Loutier.
Oui, eh bien, la moitié d'entre eux affirmaient ne regarder la télé et des films qu'en anglais.
Mm-hmm.
La moitié quand même. Hein?
C'est énorme.
Et le nombre d'heures, bon, une autre donnée, le nombre d'heures de production jeunesse qui est soutenue par le Fonds des médias canadiens a chuté de 41% en 10 ans. Ça, c'est la télé. OK? Il y a la musique aussi. Là, la musique, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est encore plus flagrant. Écoute, les 13 à 17 ans, ça, c'est selon le guide de mise en marché de la musique québécoise francophone, eh bien, ils sont 50% à affirmer n'avoir aucun intérêt pour les nouveautés en matière de musique québécoise. Aucun intérêt, là. C'est parce que c'est pas un petit peu d'intérêt, c'est pas beaucoup. C'est aucun, là. Aucun intérêt.
Alors, continue dans tes exemples, parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais là, c'est des tu sais, je veux dire, c'est des statistiques officielles, mais tu sais, mais... Je veux dire, l'argument qu'il utilise, M. Morisset, c'est de dire « Ouais, mais il y a des gens qui sont hyper populaires. » J'ai envie de lui répondre « Oui, mais le métro, il y a 1 million de personnes qui prennent le métro chaque matin. Ça ne veut pas dire que le métro fait un bon spectacle.
Hein? » Oui, oui. Puis regarde, moi, je ne suis pas un réac. Là. Je m'en irais pas te dire que TikTok, ce n'est pas la culture québécoise. OK?
Non.
J'irais pas dire ça. Mais on peut en parler de TikTok, si tu veux. Le TikTok, souvent, moi, je regarde. Bon, j'ai une plus jeune cousine. Il y a des enfants qui commencent à pousser un peu autour de moi. Je regarde ce que ces jeunes-là regardent. Et souvent, ce sont des reproductions de concepts américains.
Ouais.
Donc, ce sont soit des vidéos américaines ou soit ce sont des TikTokers québécois qui reproduisent des concepts américains.
Ouais.
Alors que la culture, à la base, c'est ce qui nous distingue des autres.
C'est un fait, mais en même temps, tu peux être aussi influencé par d'autres personnes.
Bien sûr.
Mais par exemple, je sais pas, en humour, il y a plein de jeunes Québécois qui adorent les humoristes québécois.
Tout à fait raison.
Et à ce niveau-là, ben là, c'est sûr qu'il y a quand même une popularité. Mais après, ça dépend aussi ce que tu veux dire par culture, parce que là, je sais pas si dans tes chiffres, il y a aussi la lecture.
Ça va bien, la lecture, j'allais
ça
en parler.
Ça va bien, la lecture? Ah bon, OK, ben j'adore. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de positif là-dedans.
La littérature, ça va bien. Littérature jeunesse, surtout, puisqu'on parle des jeunes.
Ouais.
Plus en plus de livres qui se publient. Il y a des auteurs jeunesse qui sont millionnaires, là, au Québec, là, qui vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc, ça va bien.
Élise Gravel, elle publie énormément
de livres. Oui, notre chère amie Élise Gravel, qu'on salue d'ailleurs.
Oh, peut-être pas nécessaire non plus.
Non, mais écoute, ça va bien en littérature,
ouais.
Mais la culture, on pense à la musique, à la télévision, ça va très, très, très mal. Et d'ailleurs, la télé, ça va bien au Québec en général parce que le public, ce sont des gens de 60 ans et plus.
Ouais. Je vais te raconter une anecdote. Allez, okay, il y a quelques années de ça, le ministère de la Culture m'avait engagée, j'étais animatrice à l'époque à Télé-Québec, et le ministère de la Culture m'avait engagée pour me promener dans différentes écoles à travers la province, puis on se déplaçait par avion, par train, par autobus, etc. On est vraiment allé dans les écoles un petit peu partout pour la semaine de la culture, et on est allé vraiment aux quatre coins de la province. Et moi, je parlais de culture, puisque j'animais à l'époque les choix de Sophie. Et je faisais le test. Je demandais aux jeunes, donnez-moi des noms de livres d'auteurs québécois que vous lisez. Puis les réponses que j'avais, c'était Daniel Steele.
Mm-hmm. Le Québécois Daniel Steele.
Oui, le Québécois Daniel Steele. Je disais Michel Tremblay. Les gens me regardaient comme si je parlais d'un extraterrestre. Je veux dire, et ça, c'était il y a plus de 20 ans.
Ah, ben là, écoute...
J'ai de la difficulté à imaginer que ça se soit amélioré.
Mais tu touches à un point intéressant, parce que dans cette vidéo-là, on a, au départ, on a trois artistes québécois qui, lorsqu'on retient seulement l'extrait, semblent être en train de conclure que les jeunes ne sont pas intéressés par la culture québécoise parce que les jeunes ne sont pas intéressés à eux.
Ouais.
Et c'est pas un exercice qui est inintéressant. Oui. À faire, parce que dans la culture, il y a des références communes.
Oui.
Et si les jeunes ne connaissent pas, et c'est peut-être pas des bons exemples, Jean-Sébastien Girard, Christian Bégin, quoique Marc Labrèche, c'est quand même une référence au Québec en culture.
Oui, tout à fait. Bon. Qui a traversé les générations,
oui,
justement.
Quand Carl Tremblay est mort,
oui,
des Cowboys fringants, moi, j'ai discuté avec des gens autour de moi,
oui,
des jeunes, des moins jeunes, et il y avait des gens qui ne connaissaient pas Carl Tremblay.
Oui.
Et je pense pas que c'était les plus jeunes, OK? On sort de cette discussion-là deux secondes, mais ces gens-là aurait difficilement pu m'affirmer une heure plus tard qu'ils connaissaient la culture québécoise et qu'ils étaient intéressés par la culture québécoise quand tu ne connais pas Carl Tremblay. Ou alors, peut-être que tu sais pas c'est qui Carl Tremblay, mais si on te dit c'est le chanteur des Cowboys fringants, puis tu dis c'est les Cowboys fringants.
C'est ça, au moins les Cowboys, tu connais ça.
Alors, l'exercice, c'est peut-être mal exécuté, mais c'est un exercice qu'il faut faire. De demander, par exemple, à des jeunes, connaissez-vous Michel Tremblay? S'ils ne savent pas qui est Michel Tremblay, il y a un problème, là.
Le ministre de la Culture au Québec ne savait pas qui était André Brassard quand André Brassard est décédé.
Oui, c'est assez gênant.
Comme on dit en anglais, non, je ne vais pas le dire en anglais, ce sera tout, votre honneur.
Parfait.
Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur.
Je suis libéré.
Merci beaucoup. C'est intéressant comme discussion, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est trop facile de dire « Ah, oh, ils ne connaissent pas la culture parce qu'ils ne nous connaissent pas, nous. » Mais il y a aussi une jeune culture émergente. Mais est-ce que cette jeune culture émergente, elle est si partagée que ça ou c'est quelque chose de très niché? En tout cas, la question est intéressante. Merci beaucoup, Rémi Villemur.
Merci, Sophie.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
C'est une image qui a commencé à circuler hier et tout de suite, j'ai su que ça allait être un sujet de conversation avec Jean-François Barry parce que ça lie, dans le sens de lier, deux éléments qui nous intéressent tous les deux, c'est-à-dire le sport et la culture et la langue. Donc, ces images qui ont circulé où on voit des joueurs de l'équipe de la Ligue de hockey junior maritime Québec porter fièrement un chandail exclusivement en anglais avec marqué « Playoff » puis le nom d'un trophée en anglais. On le voit en ce moment à l'écran. Jean-François, ton point de vue là-dessus?
Bon, on va partir aussi du début, dans le sens que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui a soulevé cette photo-là.
Ça circulait avant.
On l'avait lui... vu avant, mais lui est venu comme le marteler un peu plus fort.
Ouais.
Je pense que c'est un bon rappel à l'ordre pour les équipes de la Ligue junior maritime Québec. Il faut que je me pratique parce que c'était la Ligue junior majeure
ça a changé
Québec
de nom.
Avant.
Oui.
C'est un bon rappel à l'ordre que c'est une Ligue français et anglais. Donc, je pense que sur le T-shirt, il aurait dû avoir une mention en français. Donc, ça aurait pu être marqué « série playoff ». J'ai parlé ce matin avec le responsable des communications de la Ligue junior majeure du Québec et c'est là où il faut faire la part
Raphaël
des choses.
Raphaël Doucet,
oui. Oui, c'est que c'est pas la Ligue qui a autorisé ce chandail-là. Ça, c'est un chandail à l'interne. C'est comme si toi, Sophie, mettons, ton équipe de recherchistes, tu fais faire un chandail marqué « Success ». Je sais que tu ferais pas faire ça, mais je te donne un exemple.
Ouais.
C'est pas Cube qui a fait faire ça, c'est toi. Donc, la Ligue, si la Ligue avait vu ça, probablement...
Il l'aurait fait. D'accord.
Il l'aurait fait. D'ailleurs, ça va être changé. Et c'est un excellent rappel à l'ordre aux 18 formations de la LHJMQ que ça doit se passer dans les deux langues. Là où je pense qu'ils se sont fait prendre, c'est que dans le fond, ça, c'est une photo. C'est Maxime Talbot qui est allé rendre visite pour les encourager pour les séries, qui est un ancien joueur. Il est allé rendre visite dans le vestiaire. On n'a jamais accès au vestiaire. Là, on a pu voir, exemple, que les Saguenayens de Chicoutimi, eux autres aussi, là, c'est marqué « Surpass ». Mettons, ils ont des écriteaux dans le vestiaire. Parce que dans le vestiaire, des équipes, ça se passe en anglais, Sophie. Ça se passe en anglais dans toutes les équipes de la Ligue junior maritime Québec. T'as l'air, ça se passe anglais et français, mais je veux dire, en grande partie, ça se passe en anglais pour plusieurs raisons.
Non, mais il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Jean-François. Alors, ça peut pas être à la fois, soit ça se passe juste en anglais, soit c'est bilingue.
Ben, c'est bilingue, je vais te dire bilingue.
Oui, mais bilingue,
mais quand
la version canadienne d'être bilingue, ça veut dire qu'il y a l'anglais, puis de temps en temps, s'il y a quelqu'un qui est assez frondeur puis assez baveux, on va condescendre, on va daigner, on va s'abaisser à lui adresser deux, trois petites miettes de mots en français. C'est ça que ça veut dire être bilingue au Canada.
Mais moi, je vais y aller dans la vraie définition de bilingue. Un vestiaire de la Ligue junior maritime Québec, c'est bilingue.
Les images qu'on a vues, c'est en anglais seulement.
Quand il est sur la patinoire, l'entraîneur va donner ses directives en anglais. Parce que je vais t'expliquer, là. le capitaine des Voltigeurs de Drummondville s'appelle Luke Woodward. Il vient des Maritimes. Après ça, t'as Sam Oliver. Après ça, t'as Sam Reinhardt. Après ça, t'as Matteo Rotondi. Après ça, t'as Mercer, le gardien. C'est tous des gens des Maritimes. Après ça, t'as deux Européens. T'as Pepchik puis Komarov qui viennent de l'Europe.
Mais attends, attends deux secondes. Oui. Tu m'as dit, le premier nom que tu m'as donné, tu m'as dit le gars, il vient du Nouveau-Brunswick.
Il vient des Maritimes. Je peux pas te dire où des Maritimes. Là, je pourrais
parce que
si
c'était le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est officiellement bilingue au pays.
Ce que je veux dire, c'est que c'est faux de croire que c'est plein de petits Québécois dans les équipes à 95%. Là. C'est vraiment c'est mélangé entre les provinces maritimes.
OK, mais que ce soit bilingue à ce moment-là, Jean-François.
Moi, ce que j'ai vu, puis j'en ai vu des entraînements, c'est bilingue. La majorité des entraîneurs, peut-être pas ceux des maritimes, parce que bon, c'est quelqu'un d'Halifax, c'est autre chose, mais la majorité des entraîneurs, ils parlent en français, mais ils vont aussi l'expliquer en anglais. Et souvent, quand ils vont expliquer un jeu pour être sûr que tout le monde comprenne, ils vont le faire en anglais.
OK. Je trouve que c'est important à ce stade-ci de la discussion de parler du fait qu'on a reçu, donc on a fait une demande. Toi, tu lui as parlé ce matin, Raphaël Doucet, responsable des communications de la Ligue. On l'avait demandé en entrevue. Ça a été décliné. Par contre, ils ont dit qu'ils allaient émettre un communiqué. Alors, je vais le lire, communiqué, parce que tout le monde capote là-dessus. Il va même y avoir une enquête de l'OQLF là-dessus. C'est ce qu'a annoncé Jean-François Roberge. Mais bon. Alors, donc, le communiqué officiel, puis je vais le lire au complet. Les voltigeurs de Drummondville souhaitent réagir aux réactions, déjà tu vois que c'est bien écrit, souhaitent réagir aux nombreuses réactions provoquées par l'écriture unilingue observée sur les vêtements des joueurs pour les séries 2024. Le français a et sera toujours d'une importance capitale dans notre organisation. Nos communications, nos réseaux sociaux, nos relations avec les partisans et les partenaires se font uniquement en français. La Ligue de hockey junior maritime Québec, dont les Voltigeurs font partie, est une ligue qui opère dans quatre territoires. Dans certains cas précis, l'interaction avec les joueurs et l'affichage est faite de façon à représenter ce bilinguisme et c'est signé David Bois, directeur des opérations des Voltigeurs. À noter qu'au cours des prochains jours, de nouveaux vêtements seront produits et distribués à l'ensemble de nos joueurs. Je note quand même, et là j'éditorialise là-dessus, que ça prend un scandale de proportion nationale. Parce que là, la province au complet parle de ça, les ministres en parlent, l'OQLF est mise là-dedans pour que l'équipe dise « on va faire des nouveaux vêtements ». S'il n'y a pas ce scandale-là national, l'équipe continuerait à avoir son chandail avec marqué « playoff » dessus.
Oui, mais c'est un bon rappel à l'ordre. C'est ça que je te dis. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il y a une différence entre le vestiaire et les communications de la Ligue. Je te donne l'exemple des Foreurs. Mon fils, tu sais, joue pour les Foreurs. Ouais. C'est marqué « tous vers l'avant ». C'est ça le slogan de l'équipe. Les communications, ils ont eu leur gala en fin de semaine. Ils ont sorti la liste des gagnants, les remerciements des bénévoles. Tout est fait en français. Après ça, si l'entraîneur, lui, à l'interne, veut faire une casquette ou un chandail qui va être porté à l'interne quand les gars s'entraînent, mais là, il faut sensibiliser chacun des employés de la Ligue. Tu comprends-tu? Donc, pour moi, il y a une distinction entre la Ligue.
Je comprends.
Mettons Mario Cicchini, je vais te donner un exemple. Il s'est battu pour qu'en arrière des chandails, ça soit plus écrit juste CHL, ça, c'est la Ligue canadienne au grand complet, mais qu'il fasse aussi mention de LCH, parce qu'en français, c'est la Ligue canadienne de hockey.
D'accord.
Donc, c'est pas quelqu'un qui s'en fout du français, c'est ça que je veux dire. Avant, les enfants avaient le droit de choisir d'aller faire le Grade 12. Donc, d'être associé à une école des États-Unis, des Maritimes, et de faire, au lieu de faire son secondaire et son cégep, même un francophone, même un Québécois qui jouerait pour les Saguenayens de Chicoutimi, il pouvait faire la demande et étudier en anglais. Mario Cecchini a enlevé ça. Donc, je ne pense pas que la Ligue est insensible au français. C'est ça que je veux dire. L'erreur s'est commise par l'entraîneur, par le groupe proche à l'interne des Voltigeurs. Peut-être même que le CA des Voltigeurs n'était pas au courant de ce genre de chandail-là. L'entraîneur décide de faire un chandail. Pour les séries, ils font tout ça. Là. Ils ont tous leurs chandails différents. D'accord. Regarde avec le Drakkar, regarde avec n'importe qui. Ils ont tout un chandail. Ils ne vont pas demander à toute la Ligue, est-ce que j'ai le droit de faire ce chandail-là? Tu comprends? Donc, la décision, c'est quelqu'un en bas qui l'a pris. C'est ça que je veux dire.
D'accord. Mais merci
est-ce
pour
que c'est moins grave? Non, là.
Non, mais j'aime beaucoup ton idée de rappel à l'ordre et j'aime beaucoup la nuance et la précaution que tu prends pour parler de ce dossier-là parce que c'est trop facile d'aller vite en affaires et de sauter à des conclusions. Donc, les rappels que tu fais et les rappels que fait également David Bois, le directeur des opérations des Voltigeurs, je trouve que ces rappels-là sont importants. Je pense j'aurais aimé ça quand même que le monsieur Boisvert Doucet, c'est
monsieur
ça?
Face... Je pense que ça a pris les plus grandes proportions. Là. Je l'ai vu réagir hier parce que c'est un de mes amis, j'ai déjà animé avec lui à la radio.
Oui, parce qu'il a réagi.
Il s'est fait rincer sur les médias
sociaux.
Oui,
il l'a dit.
Je pense que...
Alors, il dit, ah ça, c'est intéressant. Raphaël Doucet, il a dit, parce qu'il avait réagi au tweet de Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a dit, je me suis fait plus traiter de colonisé hier soir que dans mes premiers 13 189 jours de vie. Sachez que le fait français a toujours été important pour moi et va le demeurer à la LHJMQ. C'est ça, LHJMQ, ouais, je l'ai eu! Bravo!
Sophie, j'ai vu au-dessus de 50 parties de la LHJMQ cette année, et il n'y a pas un annonceur maison, il n'y a pas un but décrit, il n'y a pas une présentation d'avant-match que j'ai entendue en anglais. Tout s'est passé en français.
Parfait, mais c'est important de le rappeler.
Dans le vestiaire.
Dans le vestiaire. Mais je vais en parler parce que...
Ça ne veut pas dire que c'est mieux.
Oui,
OK. Mais on c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir.
D'accord.
Ils se sont fait prendre.
Bah, c'est ça. Ben, voilà. Ils se sont fait prendre les culottes à terre et le chandail levé. Continue à écouter l'émission parce que tout de suite après la pause, une entrevue avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois. Merci beaucoup, ouais, Jean-François.
Je pourrais rester là. Je pourrais débattre avec lui. Non.
On va essayer de faire ça.
C'est okay. Bon, je vais l'écouter.
OK, tu l'écouteras puis on s'en reparlera demain. Merci beaucoup,
bon.
Jean-François.
Bye.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
Paul-Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois et député de Camille Lorrain et c'est lui qui a attiré l'attention du grand public hier sur ce chandail porté par les joueurs de l'équipe de la Ligue de hockey junior maritime Québec, un chandail exclusivement en anglais. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous choque dans cette image-là?
Ben, c'est essentiellement que l'anglais, dans ce qui était il n'y a pas si longtemps la Ligue junior majeure du Québec, donc la Ligue de développement de nos jeunes dans le sport national, tout est en anglais au point où lorsqu'on gagne un trophée ou qu'on se qualifie pour les éliminatoires, ben le chandail est en anglais, puis personne ne semble réaliser que c'est problématique comme signal et que c'est très peu respectueux pour la langue française, la langue officielle du Québec. Rappelons que le Canadien de Montréal, qui évolue dans une ligue professionnelle, nord-américaine, à portée internationale, a beaucoup plus de considération pour le français, même si c'est pas toujours parfait, mais plus de considération que notre Ligue québécoise de développement de jeunes. Donc, ça soulève des questions. À savoir pourquoi tous ces jeunes de partout dans le monde qui se joignent à notre ligue junior majeure auraient du respect ou de l'intérêt pour le français si nous-mêmes, on n'a aucun intérêt ni respect.
Alors, on a reçu il y a quelques instants, j'imagine que vous en avez une copie également, un communiqué de la LHJMQ signé David Bois, qui est le directeur des opérations des Voltigeurs. Et il dit que le français a toujours eu et aura toujours une importance capitale pour l'organisation. Ils disent que leur communication, leurs réseaux sociaux, leurs relations avec les partisans et les partenaires se font uniquement en français. Par contre, qu'ils font partie d'une ligue qui opère dans 4 territoires et dans certains cas précis, l'interaction avec les joueurs et l'affichage est fait de façon à représenter ce bilinguisme. Qu'est-ce que vous répondez à David Bois?
Mais premièrement, la position de la Ligue a évolué en 24 heures parce qu'hier, le directeur des communications me répondait sur X que c'est une ligue qui fonctionne en anglais pour mieux les préparer à devenir des hockeyeurs professionnels. Donc hier, le discours, c'était vraiment, si tu veux de l'avenir, il faut que ça se passe en anglais, donc tout fonctionne en anglais, c'est normal. Le T-shirt, c'est qu'une erreur et que l'erreur est humaine. Là, on voit un changement de ton.
C'est vrai.
Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Office de la langue française va nous rapporter ce qui se passe exactement. Mm-hmm. Et s'il y a lieu, compte tenu aussi de d'autres enjeux autour du hockey chez les jeunes au Québec depuis un certain moment, s'il y a lieu, on aura une commission parlementaire, puis on aura une discussion de ce qui peut être un modèle québécois qui fait en sorte qu'on n'a pas honte de notre langue, qu'on ne fait pas de l'anglais la langue commune en tout temps dans ces organisations-là. Parce que rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, Équipe Canada, Team Canada, interdisait aux joueurs québécois de parler français parce que ça nuit à l'esprit d'équipe.
C'est fou, hein?
Suivant la logique de la Ligue junior majeure qu'on m'a donnée hier, puisqu'il faut former tout le monde en anglais, puisqu'il y a des joueurs russes, 2-3 joueurs étrangers dans chaque équipe, ben il faut que la langue commune soit l'anglais, sinon c'est discriminatoire. Mm-hmm. Donc, c'est une logique qui mène à l'effacement complet du français. Ça mène à ce sentiment que c'est normal d'avoir des T-shirts de célébration entièrement en anglais. Personne ne réagit parce que tout le monde fonctionne en anglais de toute façon.
Oui.
Donc, on aura plus de lumière de la part de l'Office. Puis, s'il y a lieu, on poursuivra des travaux parlementaires. Mais on demeure une démocratie, puis les élus s'intéressent à ces questions-là, puis ont le pouvoir au besoin là, de corriger le tir.
Alors, je tiens à préciser que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que hier, il y a eu des échanges nombreux quand même sur X, anciennement Twitter, et le directeur des communications de la Ligue, donc Monsieur Doucet, vous a écrit, et je vais le citer vraiment mot à mot. Il dit « Parmi nos objectifs, la Ligue, il y a celui de préparer nos joueurs étudiants au circuit professionnel, dans lesquels la langue d'usage sans exception est l'anglais. Nous devons donc les plonger dans un environnement similaire à celui des autres circuits dans lesquels ils rêve d'évoluer. » Donc, en effet, vous avez entièrement raison. Je tiens à le préciser que
la Ligue
semble avoir changé en 24 heures son fusil d'épaule.
Oui. Puis si je peux me permettre, si on pousse cette logique-là, il faudra que la Ligue Midget 3A, qui prépare à la Ligue junior majeure, fonctionne en anglais au complet. Et ainsi de suite, on va commencer l'anglicisation dans nos écoles et à tous les endroits parce qu'il n'y a pas d'avenir si on ne parle pas anglais tout le temps. C'est ça la logique là ici. Alors que, rappelons-nous, dans les années 80-90, le taux de bilinguisme des Québécois était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Là, les jeunes joueurs de hockey aujourd'hui, ils écoutent Netflix puis YouTube, puis ça se passe le plus souvent pas dans la langue française, sont déjà plus bilingues. Fut une époque où Mario Lemieux a tout changé dans la Ligue nationale, mais pour autant n'avait pas fonctionné à la Ligue junior majeure du Québec dans des environnements en anglais parce qu'on considérait que la langue commune puis officielle du Québec, c'est le français. Donc, ça va de soi que notre ligue fonctionne dans cette langue-là. Donc, on s'impose des fois des fardeaux qui, lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, quand on regarde notre histoire récente, n'ont en fait pas vraiment de sens. C'est vraiment plus le consentement à standardiser l'Amérique du Nord en s'excusant d'une certaine manière de notre différence linguistique et culturelle.
Absolument. On va écouter un petit extrait du ministre Jean-François Roberge qui, lui aussi, a réagi à ça après votre réaction à vous. Donc, on écoute Jean-François Roberge à ce sujet-là.
Je pense que c'est pas acceptable que la Ligue de hockey junior du Québec, que cette Ligue-là ne respecte pas le caractère francophone du Québec. Vous savez, le Québec est la seule nation francophone d'Amérique. On a adopté une loi qui précise que le français est la seule langue officielle, la seule langue commune au Québec. Je pense que les dirigeants de la Ligue doivent faire mieux, doivent corriger.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous trouvez qu'il est assez ferme et qu'il va assez loin? Et on apprend aussi, bien sûr, vous nous en avez parlé tout à l'heure, là, que l'OQLF va vérifier la place du français dans le hockey junior. Est-ce que le gouvernement Legault en fait assez et réagit de la bonne façon?
Ben, je me plaindrai pas, non, de cette réaction-là. Je pense que ça permet donc... Non, mais c'est vrai, mon travail, c'est de critiquer, mais il faut critiquer quand c'est le temps.
Ben voilà, je pense que la réaction est la bonne.
La réaction est la bonne. On aura des faits plus précis quand l'Office aura fait son enquête. Mais comprenons aussi que notre réaction comme élu vient de ce changement. La Ligue junior québécoise devient une Ligue maritime Québec. Et dans l'histoire du Canada, on le sait, ce que ça donne souvent, c'est qu'on dit, étant donné qu'il y a une partie anglophone désormais, on va instaurer le bilinguisme institutionnel, c'est-à-dire que tout va se faire en bilingue. Et on sait que dans tous les cas d'espèce, ça finit que l'anglais s'installe comme la langue commune et le français comme une espèce d'handicap résiduel. D'où l'inquiétude des élus de dire non, non, c'est notre ligue québécoise, il y a une langue, puis nos jeunes ne devraient pas avoir honte du français dans le vestiaire. Au contraire, ça devrait être un incitatif. Rappelons que Sidney Crosby, un des plus grands joueurs de notre époque, a pris la peine d'apprendre le français lorsqu'il jouait pour l'Océanique de Rimouski. Même chose pour Brad Richards, mais c'est parce que le français est là. Mais ben si oui. On s'excuse et on respecte pas nous-mêmes le français, on peut pas demander à des Sidney Crosby ensuite de faire l'effort puisque nous ne faisons pas l'effort nous-mêmes. Donc, il y a des vraies questions sous-jacentes à ces politiques sur le hockey. Ce n'est pas que du hockey. Et c'est du hockey dans le sens où c'est notre sport, le sport qu'on aime le plus, le sport qui est le plus ancré dans notre histoire. D'où le temps que j'ai consacré. Là, c'est pas le seul dossier de la journée, mais je pense que ça valait la peine.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir... Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous pouvez être l'étoile du match, parce que c'est vous quand même qui avez... Hein, c'est comme ça qu'on fait au hockey, l'étoile du match. Vous avez marqué des buts... vous avez travaillé fort dans un coin.
Je vais prendre... ouais, non, c'est ça.
Vous n'avez pas trop mal à la laine, dans un coin. Là?
J'ai travaillé fort dans un coin, mais vous me donnerez l'étoile du match quand on aura la compréhension et la certitude que cette ligue-là fonctionne en français. Des fois, il faut être patient avant de prendre des lauriers. Là, on a fait un geste, mais il y a encore des suivants à faire, j'ai l'impression.
D'accord. Mais j'apprécie quand même le fait que vous êtes fair play. Ça, c'est correct, c'est une expression qu'on a le droit de dire en français. Vous avez été fair play. Oui, fair play, ça existe, c'est dans le dictionnaire. Je vous le confirme, vous avez été fair play en reconnaissant quand même que le ministre Roberge avait bien réagi. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon.
À la prochaine.
À la prochaine.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Belle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Le travail de nos collègues du bureau d'enquête de Québecor a été reconnu hier à l'émission dans les médias à Télé-Québec. Et c'est évidemment pour leur travail sur cette enquête absolument incroyable sur les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal. Et ceux qui ont remporté donc ce prix, cette reconnaissance, c'est évidemment Annabelle Blais, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube, et de Dominique Cambron-Goulet, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québecor et qui est avec moi ici en studio. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Comment vous avez fêté ça? Vous êtes allé chez Damas, vous avez commandé un plat à 170 $ accompagné de champagne et de caviar?
On n'a pas fêté très fort, non.
Non,
on a gardé ça très sobre, Annabelle et moi, après avoir reçu ce prix.
D'accord. Alors, je taquine Dominique, mais ce qui est important, je trouve, avec cette reconnaissance-là qui vient de l'émission dans les médias à Télé-Québec, c'est qu'on reconnaît que le travail journalistique d'enquête, qui est parfois ingrat, qui est souvent difficile, qui demande énormément d'énergie, ben il porte fruit parce qu'il réussit à faire changer les choses. C'est un peu un idéal quand on fait un journalisme d'enquête.
Mais c'est sûr que quand on fait du journalisme d'enquête, le but, c'est de faire évoluer un peu, si on veut, la société, parce qu'on veut révéler des choses au public qui sont un peu cachés et qu'ensuite, ben, ces choses-là ne se reproduisent plus ou du moins quand elles se reproduisent moins. Et je pense qu'avec l'Office de consultation publique, on a vu que grâce à notre travail, puis avec le retentissement que ça a eu, notamment avec la diffusion à JE aussi, que l'Assemblée nationale a décidé de modifier la charte de la Ville de Montréal.
C'est pas rien.
pour que l'Office de consultation publique, ses employés, soient des employés de la ville et que ce soit mieux encadré. Parce que une des réponses qu'on nous offrait au départ, c'était, ben, l'Office de consultation publique, ils sont à part de la ville un peu, ils peuvent faire un petit peu plus ce qu'ils veulent et on n'a pas de contrôle vraiment là-dessus, bien que leur budget vienne à 100% des fonds de la ville. Donc, on voit que ça a permis de faire changer les choses puis de mettre un meilleur encadrement sur cet organisme-là.
Alors, ce matin, dans le journal, un autre de nos collègues, Jean-Louis Fortin, écrit un texte toujours sur Dominique Olivier, donc à l'époque où elle était présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, qu'elle a fait des dépenses, donc on en a beaucoup rigolé, mais c'est pas drôle du tout. Un plat à 170 $ au restaurant Le Damas, un autre plat à, bon, 180, 150 $ Dans certains cas, le plat le plus cher... dans le menu, sans parler spécifiquement de ce cas-ci, Dominique, qu'est-ce que vous avez noté, vous, au fur et à mesure de l'enquête, en ce qui a trait à l'attitude face à la façon de dépenser les fonds publics?
Mais je pense que c'est ça qui est important de souligner dans ce travail-là, c'est que parmi les restaurants ou parmi les dépenses qu'on voyait, c'est que c'était pas des cas exceptionnels. Ce n'était pas seulement pour rencontrer, par exemple, des gens de l'étranger. Ce qu'on voyait, tant avec Madame Olivier, mais encore plus avec Madame Beaulieu par la suite, c'est que c'était des dépenses qui étaient récurrentes.
Voilà.
Et c'est pour ça que c'était d'intérêt public et intéressant de le démontrer, parce que si à chaque semaine ou à chaque même deux fois par semaine on voit qu'il y a des dépenses au restaurant, dans des restaurants qui, bon, sont pas, c'est pas aller au McDonald's, là.
Ouais.
Et puis c'est pas parce que je m'achète un lunch parce que je suis complètement débordé, je vais m'acheter un petit sandwich. Si on voit que c'est très récurrent et puis que c'est tout le temps, ben là, c'est là qu'il y a un problème un peu plus systémique.
Voilà.
Exactement. Donc,
d'accord,
une culture qui s'installe de dépenser et pour des réunions qui pourraient très bien se tenir, ben, dans les bureaux de l'organisme ou justement d'essayer de les diminuer parce que c'est vraiment des réunions internes. Mmh. Et c'est ça qu'on avait noté au départ et qui transparaît aussi dans l'article qui a été publié ce matin, puisque les rencontres sont pour recruter des candidates potentielles. Mmh.
Ben
on ne parle pas de recevoir une délégation de l'étranger. On parle de gens qu'on veut essayer de recruter dans notre équipe. On comprend qu'on veut leur montrer que c'est bien notre organisme, mais est-ce que la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller dans ces restaurants chics-là pour recruter des nouvelles candidates, des nouveaux candidats? Mm. C'est là la question qu'il faut se poser.
C'est la question. Moi, ce dont je veux qu'on parle, Dominique, c'est de la difficulté. C'est-à-dire que moi, je vous imagine là comme des petites abeilles à travailler dans votre bureau, à passer à travers des fichiers et des fichiers, dont beaucoup sont caviardés. Caviardés, là, pour ceux qui le savent pas, c'est quand on vous rend un document, là, puis que toutes les parties importantes puis intéressantes, il y a un gros crayon noir qui a été passé par-dessus, là. C'est pas parce qu'il y a du caviar qui a été servi. La caviardée, ça veut dire qu'on l'a enlevé les parties. Donc, à quel point ça rend le travail des journalistes comme vous difficile, ce caviardage-là?
Mais ça fait qu'on est obligé d'émettre beaucoup d'hypothèses, de poser beaucoup, beaucoup plus de questions. C'est sûr que ça rend notre travail
donc
plus long aussi.
Donc, il y a un manque de transparence.
Mais c'est sûr, parce que si on se reporte au début de notre enquête, nous, on a un fichier Excel avec les transactions par carte de crédit de la ville. Donc, on sait le montant, on sait le lieu, mais on sait pas qui est présent. Il y a combien de personnes? Un repas à 300 $ s'il y a 12 personnes, il y a rien de scandaleux. Donc, là, il faut qu'on demande des documents et on nous caviarde il y a combien de personnes, on nous caviarde c'est qui, on nous caviarde le but, on nous caviarde c'est où. Et là, au fil du temps, ben, la position de l'organisme a évolué. On avait d'abord des choses complètement caviardées, puis vers la fin, c'était de moins en moins. Donc, c'est sûr que ça a permis de faire plus de travail, de mieux apprécier finalement, est-ce que les fonds publics sont bien dépensés? Parce que c'est ça la question qu'on se pose.
On revient toujours à ça. Voilà.
Parce que si c'est complètement caviardé, comment peut-on savoir si c'est justifiable ou non, si c'est acceptable? On ne peut pas vraiment le savoir.
Ben écoutez, on salue les collègues de l'émission Dans les médias qui ont salué votre travail. Donc, on salue à notre tour votre travail. Et ben moi, je veux simplement dire d'un point de vue de collègues journalistes que moi, je suis très fière de travailler pour une entreprise qui, comme d'autres, hein, bien sûr, il y a d'autres entreprises aussi de presse qui continuent à faire du journalisme d'enquête, mais dans cette période où il y a une crise des médias, où on souffre de sous-financement, où la tarte publicitaire est extrêmement partagée et elle devient de plus en plus petite, qu'on ait des patrons, vous et moi, Dominique, qui continuent à croire à l'importance du journalisme d'enquête, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui coûte cher, mais c'est un investissement qui rapporte. Je voulais juste dire publiquement que j'étais fière de travailler pour une entreprise qui y croit.
Mais moi aussi.
Voilà, tout le monde est content. Merci beaucoup, Dominique Cambron-Goulet, donc journaliste au Bureau d'enquête de Québecor.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
C'est pas tous les jours qu'un politicien en exercice publie un texte, une lettre ouverte dans les journaux, mais c'est arrivé cette semaine. C'est dans le National Post, Anthony Housefather, qui est député du Parti libéral du Canada dans Mont-Royal, qui a écrit un texte qui a attiré mon attention. Le titre en anglais, c'est « I'm proud to be a Zionist ». Je suis fière d'être un sioniste. Ça m'a beaucoup intriguée. J'ai trouvé ça courageux, un peu baveux, mais très courageux. J'avais envie d'en parler avec Anthony Housefather lui-même. Il est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Bonjour. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce texte-là et pourquoi ce titre quand même assez « in your face », comme on dit en anglais?
Parce que j'ai écouté les discours la semaine passée de la Parti néo-démocrate et de plusieurs députés libéraux dans la Chambre des communes où ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire un zioniste. Et tout ce qu'un zioniste, ça veut dire, c'est qu'on croit qu'il devrait avoir un État juif en Israël. C'est pas à dire qu'on appuie le gouvernement Netanyahou, c'est pas à dire qu'on appuie n'importe quoi qu'Israël va faire, mais on croit que les Juifs qui étaient expulsés de presque tous les pays, qui n'avaient aucune place à aller quand il y avait l'Holocauste, dont les Juifs étaient tués parce qu'aucun pays les a acceptés, devraient avoir une place dans le monde d'aller ou quand les choses vont pas bien dans leur pays. Et en effet, quand on dit la semaine dernière, il y avait tellement d'insultes contre les zionistes dans la Chambre des communes, je croyais que c'était important de dire que je suis fier d'être zioniste. Il n'y a rien de mal d'être zioniste.
D'accord. Et c'est important de mentionner, même de faire quelques rappels historiques, parce que beaucoup de Juifs, c'est pas 100% des gens qui sont Juifs qui sont sionistes. Hannah Arendt, je suis en train de lire sa biographie, à un moment donné, il y a tout un passage où elle est contre la création de l'État d'Israël tel qu'il est question de le faire en 1948. Donc, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais il faut pas que ce soit associé à un mauvais mot. Alors, vous avez dit que la semaine dernière, en chambre, il y a des gens du NPD qui ne semblaient pas comprendre c'est quoi être un sioniste, mais vous dites qu'il y a des libéraux aussi qui comprenaient pas. Ben, vous êtes vous-même un libéral, Monsieur Housefather. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir continuer à être libéral au sein d'un parti où il y a vraiment une telle divergence d'opinion sur ce qui se passe en ce moment en Israël et dans la bande de Gaza?
Donc, pour moi, ce n'était pas le problème d'avoir la diversité d'opinion. Je crois que le pays a une diversité d'opinion.
Ouais.
C'était la manière que le gouvernement n'a pas juste dit non à une résolution de l'NPD qui était quasiment contre Israël et qui était contre les promesses électorales du Parti libéral, où on a dit que on serait du même que les conservateurs, du même bord que les conservateurs pour appuyer Israël. Et c'est clair que qu'est-ce qui a été adopté par la Chambre des communes n'était pas. Et donc pour moi, c'était pas qu'il y avait des collègues qui ont voulu voter pour. C'était que le gouvernement, le cabinet, n'a pas pris position contre. Et donc ça, c'était difficile pour moi d'avoir entendu après qu'ils ont déposé des amendements à la dernière minute, qu'il y avait des collègues du musulmans qui étaient impliqués dans ça, que le National Council for Canadian Muslims était impliqué, et que nous, les députés, n'ont pas vu ces amendements 20 minutes avant le vote, jusqu'à 20 minutes avant le vote. J'avais un problème avec ça aussi.
Bon, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, là, on est le 28 mars, pouvez-vous encore être un libéral, M. Hardfather? Il y a des gens qui vous font des appels du pied, là. Il y a des gens qui disent, ben pourquoi il s'en va pas avec les conservateurs? S'il est assis en porte-à-faux avec les libéraux, qu'est-ce que vous leur répondez aux conservateurs qui vous font de l'œil en disant, oh, Anthony, viens-t'en prendre un petit souper avec nous, là?
Donc, qu'est-ce que je dirais, comme vous, Mme Durocher, parce que je vois votre émission, je suis pas totalement d'accord avec une partie politique ou une autre. Sur certaines questions, je suis plus un. Mm-hmm. Sur des autres, je suis un autre. Je suis un individu. Je suis élu pour représenter les gens de Montréal. C'est eux qui sont mes patrons. Je suis en train d'écouter leurs opinions, de leur laisser me dire. Parce que c'est rare.
Et vous en parlez de ça? Les gens vous arrêtent dans la rue, dans votre circonscription, et vous parlent. Donc, ils sont très fâchés de l'attitude du gouvernement Trudeau face à Israël?
Il y a les deux côtés. Mais oui, la plupart de la communauté juive, absolument. Il y a des autres qui me donnent l'opinion contraire, mais j'étais très public sur le fait que j'avais des doutes. Généralement, les politiciens qui parlent ça ne disent ça pas en public, ils font ça derrière les portes. Moi, je veux que les gens voient que je suis angoissé.
D'accord.
Parce que je crois que s'il y a beaucoup de gens dans le Parti libéral qui sont angoissés par certaines actions du gouvernement, et ils ont des doutes, et moi, j'en ai des doutes. Et je veux que les gens puissent partager avec moi qu'est-ce qu'ils croient aussi, parce que j'en ai deux options. Je peux croiser ou je peux rester pour batailler pour un différent parti libéral qui n'appuie pas l'Iran, mais appuie des démocraties comme Israël.
D'accord. Oui, parce qu'on sait que c'est l'Iran qui finance le Hamas. Je vois tout à fait le lien que vous voulez faire. Je reviens à votre texte. Vous parlez du fait que dans votre circonscription à Montréal, je traduis au fur et à mesure, là, il y a des bureaux de la communauté juive, la bibliothèque juive, le musée de l'Holocauste. Il y a eu des manifestations et que c'est inquiétant. Donc, cette montée de l'antisémitisme que certains ne semblent pas vouloir reconnaître, M. Hardfather, comment on fait pour leur ouvrir les yeux?
Mais c'est exactement ça. Je crois que tous les gouvernements, tous les paliers du gouvernement ont vraiment failli quand on parle de l'antisémitisme. Le fait que les policiers n'ont pas séparé les manifestants à cet édifice de les gens qui voulaient entrer et sortir. Et il y a des gens qui étaient prisonniers dans l'édifice pour 3 heures.
Ouais, quand les manifestants... Vous avez vu ce qui est arrivé au cours des dernières heures à l'Université McGill?
Oui, j'ai écouté ça aussi. McGill a choisi de ne pas téléphoner les polices.
Pourquoi? J'explique brièvement aux gens qui nous écoutent. On voit des images, donc, de gens, des manifestants pro-palestiniens. Ils ont le keffieh autour du visage pour cacher leur visage. Et ils font irruption et ils essayent de bloquer, de forcer leur entrée dans un édifice. McGill n'a pas appelé la police.
Non, j'ai écrit à le président de McGill parce que c'est arrivé une fois déjà. Ouais. Et j'ai dit que c'est complètement inacceptable que politique. Les étudiants étaient privés d'avoir la chance d'avoir leur cours. Et c'est pas juste que quelqu'un pour entrer dans un édifice doit se déclarer que je suis pas zioniste pour entrer dans un édifice. C'est ridicule. Et je ne comprends pas pourquoi les polices, les universités, tout le monde permet des actions qui seraient jamais acceptées si c'était contre un autre groupe.
Voilà, vous venez de le dire et je suis entièrement 150% d'accord avec vous. Anthony Hardfather, il nous reste 10 secondes. Est-ce que les citoyens canadiens juifs sont en sécurité au Canada en ce moment? Vous avez 10 secondes pour me répondre.
Je crois que la majorité se croit pas. Ils se sont très menacés et ils sont très déçus avec tous les gouvernements maintenant.
Autant même Valérie Plante au municipal?
Oh oui.
Absolument.
Oh oui.
Bon, Anthony Hardfather, vous êtes député du Parti libéral du Canada. On ne sait pas pour combien de temps. Dans Mont-Royal, je vous taquine. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, Mme Durocher.
Merci à Marianne Bessette, Maxime Sawyer, Tristan Brunet-Dupont, Jean-Philippe Leroux. Merci à tous. On se retrouve demain. Kid.